Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. On plonge tête première dans l'analyse percutante de Naïm Kamal.
Ah, Kamal.
Et vous le connaissez peut-être, chroniqueur et analyste marocain de renom sur la situation en Syrie.
Oui.
Vous le connaissez peut-être pour ses prises de position souvent incisives sur le monde arabe.
Oui, une véritable plume acérée, Naïm Kamal, ça c'est sûr.
Exactement. Et son dernier article,
intitulé
« Syrie de Lawrence d'Arabie à Mohamed Al-Joulani, la perfidie d'Albion », paru sur la plateforme. L'opinion des jeunes Marocains.
D'accord.
TODJ. Média est particulièrement captivant. Déjà, le titre, avec sa référence historique, nous promet une plongée.
Oui.
Dans les méandres géopolitiques, on sent que Kamal va décortiquer les jeux d'influence, les manipulations, la perfidie d'Albion.
Oui.
L'Angleterre qui plane sur la Syrie depuis des décennies.
C'est vrai que le titre est un véritable programme en soi. Ça nous met sur la piste d'une lecture. Des événements syriens à travers le prisme de l'histoire, une histoire faite de rivalités, d'alliances changeantes et d'interventions étrangères.
Alors, la question qui nous brûle les lèvres, c'est quel parallèle historique Kamal établit-il et surtout en quoi son analyse peut-elle nous éclairer, nous, aujourd'hui?
Excellente question. Et pour commencer, je vous propose de nous pencher sur le premier point abordé par Kamal, la chute du régime Assad, qui en profite selon lui, et comment cette chute rebat-elle les cartes dans la région?
Kamal souligne que la chute d'Assad, même s'il était affaibli, arrange bien des affaires. Il dresse une liste d'acteurs aux intérêts parfois contradictoires qui tirent profit de cette situation.
Oui, et il commence par Israël.
Ah oui?
Et son premier ministre Netanyahou, pour eux, la disparition d'Assad, même impuissant, représente l'élimination d'un ennemi. Kamal dénonce d'ailleurs l'opportunisme d'Israël, qui s'empresse d'investir le Golan.
Oui.
Et de l'annexer avec l'ambition de l'intégrer un jour au Grand Israël.
C'est qu'il met le doigt sur la dimension stratégique du plateau du Golan pour Israël. C'est un territoire clé d'un point de vue militaire et sécuritaire. La chute d'Assad leur offre une occasion en or de consolider leur mainmise sur cette région.
Absolument. Et Kamal ne s'arrête pas là. Il évoque aussi la Turquie et le Qatar.
Oui.
Qui voient dans la chute d'Assad une aubaine économique.
D'accord.
Il lorgne sur le projet d'un gazoduc. Traversant la Syrie, un projet qui pourrait réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe.
Ah oui, le fameux gazoduc, un enjeu énergétique majeur.
Oui.
La Turquie et le Qatar ont des ambitions dans la région, et la Syrie, de par sa position géographique, est une pièce maîtresse dans ce puzzle.
Tout à fait. Et Kamal nous rappelle que la chute d'Assad est accueillie favorablement par de nombreux pays occidentaux, de Washington à Paris, en passant par Berlin et Bruxelles.
C'est intéressant qu'il ne se limite pas à pointer du doigt les puissances occidentales. Il évoque aussi les réactions au sein du monde arabe, notamment Maroc.
Oui, et c'est là qu'on voit que la situation est loin d'être manichéenne.
Oui.
Au Maroc, Kamal identifie deux groupes qui se réjouissent de la chute d'Assad. D'un côté, ceux qui voient la fin d'un ennemi de l'unité territoriale du royaume.
Oui.
De l'autre, les frères, les islamistes, qui espèrent un retour en force de leur mouvement avec la disparition du régime baasiste.
Ce qui est fascinant, c'est cette diversité, voire cette opposition des intérêts en jeu. On comprend que la situation en Syrie est bien plus complexe qu'un simple conflit entre un dictateur et son peuple. Il y a des enjeux géopolitiques énormes, les luttes d'influence qui dépassent largement les frontières syriennes.
Exactement. Et dès le début de son analyse, Kamal nous invite à gratter sous la surface, à décrypter les motivations réelles des différents acteurs. Il nous met en garde contre lecture simpliste.
D'ailleurs, en parlant de complexité, Kamal aborde un point crucial de la Syrie comme carrefour d'histoire et de géographie. Un carrefour stratégique convoité depuis des siècles par les puissances étrangères.
C'est vrai. Et c'est sur ce point que je vous propose de nous pencher dans la prochaine partie de notre deep dive. On va explorer cette dimension géostratégique de la Syrie, son histoire mouvementée et comment tout cela a contribué à faire d'elle le terrain de jeu des grandes puissances.
Génial, en hâte.
Alors plongeons maintenant au cœur de ce deuxième point soulevé par Kamal la Syrie, ce carrefour d'histoire et de géographie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
Kamal nous emmène ici vers une réflexion plus profonde sur la place de la Syrie, sur l'échiquier géopolitique. Il explique que sa position géographique stratégique, s'il en est, a toujours fait d'elle un objet de convoitise et un enjeu pour diverses puissances au fil des siècles.
Oui, et il souligne que cette position géographique a rendu la survie de la Syrie extrêmement difficile, surtout dans un environnement aussi volatile que le Moyen-Orient, d'où peut-être le recours à la force et à la brutalité pour se maintenir à flot.
Justement, Kamal pointe du doigt ce manque de souplesse, de finesse, dirons-nous, dans la politique du clan Assad, un clan qui a préféré miser sur la brutalité pour conserver le pouvoir.
Oui, et il rappelle notamment la politique étrangère agressive menée par le régime syrien envers les pays du Golfe à l'époque du panarabisme. Cela explique en grande partie l'hostilité des États du Conseil de coopération du Golfe envers Damas.
Kamal nous rappelle également un fait historique intéressant, la Syrie et l'Algérie étaient les deux derniers pays du front du refus, formés au milieu des années 1970, un front qui s'opposait à toute forme de réconciliation avec Israël.
Ah oui, le front du refus, un mouvement initié par l'Irak, la Syrie, la Libye, le Yémen du Sud, l'Algérie et l'OLP de Yasser Arafat Kamal, nous rappelle que ce front a volé en éclats. L'OLP est en lambeaux, l'Irak est en proie à de graves troubles, le Yémen est déchiré par des guerres civiles, la Libye est en état de déliquescence avancée et la Syrie vient de tomber seule, l'Algérie subsiste attendant son heure.
C'est une observation frappante, la chute du régime Assad s'inscrit donc dans un contexte régional plus large, marqué par l'effondrement de ce front de résistance. On perçoit mieux les dynamiques à l'œuvre.
Tout à fait. Et Kamal s'interroge quel avenir pour la Syrie. Après la chute d'un régime aussi autoritaire, il ne se prétend pas devin, mais il presque des jours difficiles attendent la Syrie. Il nous invite à la prudence, à ne pas céder à l'optimisme biais.
D'autant plus que Kamal évoque un projet qui, selon lui, n'a pas été totalement enterré, le Grand Moyen-Orient. Un projet américain visant à remodeler la région selon les intérêts de Washington, un projet qui fait froid dans le dos.
Le fameux Greater Middle East Initiative, le GMAI, un projet ambitieux, certains diraient néocolonial, qui a germé au début des années 2000 aux États-Unis, l'objectif transformer politiquement, économiquement et socialement tout le Moyen-Orient élargi, en y incluant des pays d'Afrique du Nord du Golfe et d'Asie centrale.
Et Kamal craint que ce projet, malgré les soulèvements du printemps arabe, soit toujours d'actualité. Il voit dans la situation actuelle en Syrie un terrain fertile pour la mise en œuvre de ce projet.
Oui, et il était ses craintes en citant Hillary Clinton. Dans ses mémoires, elle évoque le rôle des mouvements fondamentalistes dans le déclenchement du printemps arabe sans le nommer explicitement. Elle fait référence à ce projet de Grand Moyen-Orient et à sa tentative de mise en œuvre.
Kamal s'inquiète donc de l'instrumentalisation des mouvements fondamentalistes par certaines puissances étrangères pour déstabiliser la région et servir leurs intérêts, un scénario digne d'un film d'espionnage.
Oui, c'est là qu'il introduit une figure historique fascinante, Lawrence d'Arabie. Kamal dénonce l'existence d'individus de véritables Lawrence d'Arabie modernes qui œuvrent pour le compte des agences américaines et israéliennes dans le monde arabo-musulman.
La comparaison avec Lawrence d'Arabie est troublante pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas bien cette figure historique. Peux-tu nous rappeler qui il était ?
Bien sûr. Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, était un officier et un agent des services secrets britanniques. Il a joué un rôle clé dans la révolte arabe contre l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale.
On a souvent tendance à le voir comme un héros romantique, un aventurier qui s'est battu aux côtés des Arabes pour leur liberté.
Oui, c'est l'image qu'on a donnée au cinéma, notamment le film de David Lean avec Peter O'Toole. Mais la réalité est plus nuancée. Lawrence a été envoyé comme agent de liaison auprès des forces arabes dirigées par le shérif Hussein de la Mecque. Et ses fils, dont Faisal, il a gagné leur confiance en partageant leur vie dans le désert et en adoptant leurs coutumes. Mais pendant ce temps.
L'Angleterre et la France préparaient en secret le dépeçage de l'Empire ottoman.
Exactement, c'est le fameux accord Sykes-Picot de 1916 qui a trahi les promesses faites aux Arabes et divisé le Moyen-Orient en zones d'influence française et britannique. Cet accord est souvent perçu comme un symbole de la perfidie des puissances occidentales.
Et Kamal craint que ce scénario se répète en Syrie avec de nouveau Lawrence d'Arabie qui manipule les acteurs locaux pour servir des intérêts étrangers.
Précisément, il met en garde contre la répétition des erreurs du passé et appelle à la vigilance face aux ingérences étrangères. D'ailleurs, il cite l'exemple du Maroc, qui a récemment appelé à préserver la souveraineté de la Syrie et à la protéger de toute ingérence dans ses affaires internes.
Un rappel important, la Syrie n'est pas un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Il est crucial de respecter sa souveraineté et de laisser les Syriens décider de leur propre avenir.
Absolument. Et c'est là que le parallèle avec Lawrence d'Arabie prend tout son sens. Kamal nous invite à tirer les leçons de l'histoire, à ne pas nous laisser bercer par les illusions et à être conscient des enjeux géopolitiques complexes qui se jouent en Syrie.
Dans la dernière partie de notre deep dive, nous allons explorer plus en détail les conclusions de Naim Kamal et les pistes de réflexion qu'il nous propose pour comprendre la situation en Syrie et les enjeux pour l'avenir de la région. Après cette plongée dans les méandres de l'histoire et de la géopolitique, revenons à l'analyse de Naim Kamal. Et à ses conclusions, on a l'impression qu'il nous invite à une véritable prise de conscience face à la situation en Syrie.
Oui, tout à fait. Kamal nous met en garde contre ce qu'il appelle la perfidie. Mais attention, il ne limite pas cette perfidie à une seule nation.
Ah, c'est intéressant. Ça, il ne désigne pas un ennemi unique, un méchant absolu.
Non, pas du tout. Kamal souligne que la manipulation, la trahison, la poursuite d'intérêts cyniques, tout cela n'est pas l'apanage d'une seule puissance. Il nous rappelle que l'histoire est remplie d'exemples de ce genre et que la Syrie n'est malheureusement qu'un chapitre de plus dans ce récit, sans fin.
C'est un rappel salutaire. On a souvent tendance à simplifier les choses, à voir le monde en noir et blanc, avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre.
Exactement. Et Kamal nous invite à sortir de cette vision binaire, à analyser les situations avec plus de nuances. Il nous encourage à nous interroger sur les motivations réelles des différents acteurs, à comprendre les jeux d'influence, les alliances stratégiques, les intérêts économiques qui se cachent derrière les discours officiels.
En fait, Kamal nous appelle à une forme de lucidité, à une analyse critique des événements qui tiennent compte de toutes les nuances, de tous les points de vue. Il nous incite à lire entre les lignes, à décrypter les discours, à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous présente.
Oui, et il nous incite à tirer les leçons de l'histoire, le parallèle qu'il dresse avec Lawrence d'Arabie. Et l'accord Six-Picot nous rappelle que les manipulations géopolitiques ne sont pas un phénomène nouveau. La Syrie est malheureusement un nouveau théâtre de ces jeux de pouvoir, et il est important de ne pas répéter les erreurs du passé.
Alors, après cette plongée fascinante dans l'intil d'Idin Kamal, quelles questions peut-on se poser en tant qu'auditeur pour mieux comprendre la situation actuelle en Syrie et ses conséquences potentielles pour l'avenir de la région?
Je pense que la question essentielle, c'est comment, en tant que citoyens du monde, pouvons-nous contribuer à un avenir plus juste et plus pacifique pour la Syrie et pour l'ensemble du Moyen-Orient? Comment éviter que l'histoire ne se répète, que les mêmes erreurs ne soient commises encore et encore?
C'est une question qui nous invite à la réflexion, mais aussi à l'action. On ne peut pas rester passif face à ce qui se passe en Syrie. En tout cas, l'analyse de Naim Kamal nous donne des clés de compréhension précieuses pour décrypter ce conflit complexe. Je vous encourage vivement à lire son article dans son intégralité pour approfondir votre réflexion.
Oui, c'est une lecture indispensable pour tous ceux qui veulent comprendre les enjeux géopolitiques au Moyen-Orient. Et n'oublions jamais que l'histoire, même lorsqu'elle semble lointaine, peut nous éclairer sur les défis d'aujourd'hui et nous aider à construire un avenir meilleur.
Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans cet univers passionnant et parfois troublant de la géopolitique. On se retrouve très vite pour un nouveau Deep Dive.